Avertissement, Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration.
Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu l'as perdu, et sur la toundra, tu succomberas.
Salutations à vous, cruels disciples de la brutalité divine! Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la toundra! Une série de rituels radiophoniques amenés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluit, dédiée à la plus grande gloire du black metal! Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître d'encore une autre sauvage cérémonie est de vous monter un tempétueux bizarre philosophique, une bourrasque existentielle, un cataclysme qui est réellement apocalyptique et veille aux ténèbres de notre monde, une terrible révélation de notre noir culte à la fois. Ainsi, j'initie le rite. Nous vous invoquons, ô Sirapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et ô Sednanouliayouk, ô courageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la feuille de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. À l'écoute des cadavres, à l'occasion d'encore une autre colérique tempête de vent, dont les rafales dépassent les vitesses d'ouragan, nous allons ce soir replonger dans le monde de ces énergies divines qui existent depuis la nuit des temps, qui ont créé cet univers en chaotique en détruisant la matière comme les êtres, les permettant de découvrir la fortitude de l'esprit et la vraie vie au-delà de la mort. Mais au lieu de simplement vous l'annoncer, permettez-moi de vous lancer cette question bien moins métaphysique, mais tout autant conséquente. Quelle est l'impression la plus immédiate, donc la plus instinctive et naturelle qu'ont les non-initiés à notre musique liturgique? Ou autrement, quelle est la critique ou le reproche le plus fréquemment entendu, issu de la sale gueule de la plèbe, vile et misérable? C'est que la nôtre n'est pas une musique, mais que du Christ de bruit, n'est-ce pas? En entendant du black, les gens se sont attaqués, troublés et agressés. Et dans la noire cacophonie thaumaturgique de nos odes et hymnes à la destruction, ils n'entendent, ressentent et discernent que de la grosse crise de violence. Les plusieurs vont même aller plus loin encore et insister que cette violence n'est pas que sonore. Non, elle est spirituelle et morale. Et là vient la deuxième grande inculpation qui passe au-delà de bases ridicules contestations esthétiques. Cette musique, elle est intrinsèquement violente, en cause et en effet. On nous dira qu'elle corrompt la personnalité des auditeurs, qu'elle empoisonne le moral et envenime les impulsions dans une inversion pathologique de l'esprit, qu'elle leur lave le cerveau et précipite ainsi une perversion morale. Bref, plus qu'on en écoute, plus on en est agressé, plus nous risquons d'en devenir agresseurs. On a beau ne comprendre à peine les paroles hurlées et inintelligibles, ne pas déchiffrer les métaphores complexes et comprendre les références ésotériques ou hautement personnelles, ne pas comprendre que l'ambiguïté n'est pas un accident, mais une intention. Même à cela, la musique black est du fait de sa nature violente, et elle incite donc naturellement, irrémédiablement, l'auditeur à la violence. Au-delà le black metal, ceci est une accusation qui hante le heavy metal depuis ses débuts dans les années 70 et elle s'est intensifiée lors des années 80 lorsque la Parents Music Resource Center ou PMRC avait été fondée en tant que groupe de pression. Ceci dans le but d'identifier, de dénoncer, possiblement même censurer toute évocation du sexe, de la violence, du satanisme et de l'utilisation d'alcool et de drogue dans l'univers de la musique. Dans une audience sénatoriale à l'image du macartisme de deux générations plus tôt, une participante, Susan Baker, y avait témoigné. Il y a certainement de nombreuses causes à ces maux de notre société, mais nous soutenons que les messages omniprésents destinés aux enfants qui encouragent et glorifient le suicide, le viol, le sadomasochisme, etc., doivent être comptés parmi les facteurs contributifs. Puis, dans les années 90, l'accusation est revenue avec la fusillade de Columbine, quand le 20 avril 1999, à une école secondaire du Colorado, deux élèves ont tué un professeur et 13 élèves, et blessé 24 autres, avant que finalement, ils se suicident dans la bibliothèque de l'établissement. À l'époque, ceci était le troisième massacre le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis, et un grand témoin a été ainsi provoqué partout dans le monde, soulevant des débats sur le terrorisme, les lois de contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles, l'impact des jeux vidéo et des films, et surtout, oui, l'influence de la musique. Leur bouc émissaire numéro 1, Marilyn Manson. Et l'accusation, c'est sa musique décadente qui avait provoqué cette tuerie, cette violence. Mais il n'y a rien de nouveau du tout à tout cela. Des millénaires passés, Aristote, ce sale philosophe, nous avait grossièrement mis en garde et contribué à cette tradition de paranoïa morale collective en léguant ce conseil à la postérité. La musique imite directement les passions ou les états de l'âme. Quand on en écoute une musique qui émet une certaine passion, on s'imprègne de cette même passion. Et si pendant une longue période, on écoute habituellement une musique qui suscite des passions ignobles, tout son caractère sera façonné sous une forme ignoble. Ah, nous savons mieux aujourd'hui, ou plutôt nous le devrions, surtout que des preuves scientifiques en disent bien au contraire. Par exemple, les chercheurs du département de psychologie de l'Université Macquarie ont mené une expérience auprès de fans et non-fans de métal, lors de laquelle les participants écoutaient soit Eaten de Bloodbath ou Happy de Pharrell Williams, tout en étant montrés des images violentes et non-violentes, une pour chaque œil, mais que des deux, le cerveau instinctivement n'en choisirait qu'une à voir. Conclusion, la musique ne désensibilise pas les auditeurs à la violence, ni du tout ne les encourage à devenir violents. Deux autres études ont démontré qu'en fait, pour les métalleux, la musique énergique et puissante qu'ils adorent aux extrêmes pourrait être utile, leur procurant une libération émotionnelle. L'article Extreme Metal Music and Anger Processing fait rapport sur une expérience tenue à l'Université du Queensland auprès de fans de musique extrême aussi. On a mis les sujets en colère et ensuite permis d'écouter la musique de leur choix. Puis, les neuropsychologues ont évalué comment leur état émotionnel avait changé. Ils ont alors constaté qu'au lieu de les rendre plus en colère ou autrement les induire à une chute vers de troubles affectifs, l'écoute d'une musique extrême améliorait leur état émotionnel, les aidant à traiter de façon directe leurs émotions fortes. Ces résultats sont similaires à une autre étude publiée en 2001 dans le Journal of Youth and Adolescence, qui a révélé qu'en tenant compte des facteurs extérieurs, la musique métal n'influençait aucunement le risque de suicide chez les adolescents. En outre, les adolescents qui utilisaient cette musique pour se libérer de leurs émotions couraient en fait moins de risques d'être auto-violents et ils étaient davantage mieux sur le plan émotionnel. Et ah, les cadavres et les bientôt cadavres! Attention! Ne vous laissez pas être emportés par ces petites rassurances-là. Il ne nous importe point! Car ici, à Hurlement sur la toundra, nous ne sommes pas dans le hair metal carnavalesque de Twisted Sister, ni dans le shock rock metal indus de Marilyn Manson, ni même dans le death metal grand guignol de Bloodbath. Plutôt, et Christ que vous le savez, ici, nous sommes carrément dans le réellement terrible domaine de métal qui est black! Ils ne peuvent dire autrement. La transgression qui est la nôtre, telle qu'explicitement établie par les grands fondateurs et réformateurs de notre tradition, doit être une musique d'une violence franche, rude et totale. Le black doit être au-delà de toute intention artistique. Il doit rejeter tout attrait de consommation décadente et il doit se foutre de toute critique d'intérieur comme d'extérieur. Et il n'informe pas, il ne divertit pas, il n'unifie pas. Au contraire, le black violente et brutalise tous également de son message fielleux. Qu'il le manifeste soit par la subversion satanique, l'usurpation néo-païenne, la montée crypto-nationaliste, le rejet anarcho-primitiviste, la haine misanthrope ou l'illumination nihiliste, sa nature est d'être dangereuse. Et sa haine étant de réagir à son unique victime, l'homme, le black metal constitue totalement un acte de violence en soi. Alors, en être un adepte doit vous rendre davantage violent. Ainsi, ce rite-ci ne sera point une discussion superficielle d'un objet de fascination particulier du black, non plus une revendication de ses mérites, mais une glorification pure et simple et une incitation ouverte à la violence de par sa noire musique. Et il va commencer avec un appel au front de la part de nos compatriotes boréaux de neige éternelle, qui ont parti leur unique apparition sur cette composition-ci, cri de guerre, en live pour ajouter un gros plus de mordant à notre soirée. Et immédiatement après, juste parce que ça me tente en crise de le faire, nous aurons une reprise orchestrée par le one-man death black brésilien Thy Rights. Necrotizer nous offre sa reprise de Shoot, Knife, Strangle, Beat and Crucify de celui qui s'est proclamé The Last True Rock'n'Roller, mais qui est, que vous l'aimiez ou non, un vrai de vrai prophète de la violence symbolique et physique, le légendaire, le vilipendé J.J. Allen. Ça s'en vient, et j'inaugure le rite en bon sur ce court mais cruel poème du grand Ragnar Redbeard. Hate for hate and truth for truth, eye for eye and tooth for tooth, scorn for scorn and smile for smile, love for love and guile for guile, war for war and woe for woe, blood for blood and blow for blow. Rest in pieces, G.G. Allen! Pour immédiatement présenter la thématique, nous avons eu au début de ce chapitre cri de guerre de nos alliés nord-côtiers, Neige éternelle, qui nous appelle sur le premier coup à assumer notre destin en tant que combattants résolus. Et pour tout aussi résolument vous avertir et tout de suite vous agresser quant à ce qui s'en vient, je vous ai imposé cette reprise de Shoot, Knife, Strangle, Beat and Crucify, exécutée à la Bestial War Metal, qui rend dur et dangereux hommage à l'inégalable Shock Rocker pionnier. La violence est au programme ce soir, comme à toutes nos convocations tabarnak. Mais pour cette occasion-ci, nous nous penchons avec un intérêt et une intelligence particulière et précise sur la question de sa place dans la terrible Goetie Black Metal. La violence y est à son cœur noir. Ceci est clair autant pour les non-initiés que pour les adeptes, peut-être même d'autant plus pour ses détracteurs. Mais définissons-la. Qu'est-ce au juste la violence? Et quelle en est sa cause? On le sait être segment, n'est-ce pas? On le ressent dans les fucking viscères comme dans l'esprit. La violence est tout acte qui a comme but intentionnel de faire rien de moins que du mal à l'autre. Mais comment nombreuses en sont les façons, les moyens et les victimes possibles? Car la violence, étant l'utilisation de force mais aussi d'un pouvoir, peut entraîner non seulement un mal physique, mais un mal psychique. Et à cela, soit à un individu donné ou à un groupe de gens, même à un peuple ou à une nation entière, et encore à sa propre personne et aux autres créatures de ce bas monde. Les motifs et les conséquences peuvent être de plusieurs sortes, pour blesser, mais également contraindre, dominer, tuer, détruire ou même endommager les biens d'un individu ou des éléments naturels. Ce qui, j'ajoute, peut entraîner à des victimes primaires et à des victimes secondaires, un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou simplement, mais plus dramatiquement, un décès. Et les outils de la violence peuvent également être multiples. En premier, du front de la tête aux pieds en passant par le corps entier, puis les armes de chasse et les armes de guerre, du bâton préhistorique de l'Homo habilis jusqu'au gaz moutarde, la bombe atomique et l'Internet. Et en tenant compte que des atrocités de violence sont commises à la grande échelle, incluons aussi un autre type d'armes, celles issues de la militarisation des sociétés, les armes idéologiques, qui inclut la propagande, la croisade religieuse, la réglementation oppressive et coercive, même le langage. Ils sont tous des instruments de violence. Et finalement, certaines instances historiques nous en suggèrent un autre type. Comme la bataille de Jéricho rapportée dans la Bible, au 7e jour duquel les prêtres de l'armée ont fait retentir des cornes de bélier et les soldats hébreux criaient pour faire écrouler la muraille de la ville assiégée. Et en voici une autre, moins légendaire et fort plus récente. Durant le siège du complexe culturel des Branch Davidians à Waco, des agents ont attaqué des partisans avec la diffusion de chansons loufoques allant de These Boots Were Made for Walking de Nancy Sinatra à des chants de Noël et des chants tibétains. Effectivement, la musique peut bel et bien être, elle aussi, une vraie puissante arme. Et la musique métal fait partie d'un arsenal sonore, étant une arme redoutablement atroce en offensive psychologique, surtout utilisée lors de sessions de torture. Le sergent Mark Hadsell, de la 361e compagnie d'opérations psychologiques, ou Psy-Ops des forces américaines, en a témoigné de son efficacité particulière au cours de son déploiement pendant la Seconde Guerre du Golfe. Il en a dit ceci à la revue Newsweek. Ces gens n'ont jamais entendu du heavy metal. Ils ne peuvent pas du tout le supporter. Si vous en jouez pendant 24 heures, leur fonction cérébrale et corporelle commence à déraper et leur train de pensée ralentit au point que leur volonté est brisée. C'est dans ce moment-là que nous entrons en scène et que nous leur parlons. Finalement, n'oublions pas que la violence peut tout autant posséder une fonction spirituelle et sa pratique peut être exercée à des fins religieuses. Ce que vous allez cruellement connaître grâce à la pièce concluante du chapitre venue de la horde finlandaise Pimiedenpuohoja, dont la première parution, The Devil's Epoch, comprend une composition à fermement vous planter dans la poitrine le poignard sacrificatoire, Morbid Sacrifice. Le moment est venu, cadavre! À vous maintenant d'être battu, étouffé, asservi et meurtri! Sur l'autel d'hurlement sur la toundra, cela uniquement pour apaiser la mortelle noirceur du black metal!